Avec la tempête de neige de cette semaine, vous avez vu que, honnêtement, la ville était paralysée. On a demandé à beaucoup, on a fermé des services publics, on a fermé beaucoup de bureaux, même dans le secteur privé. Et on a demandé aux gens de travailler, de ne pas se rendre au bureau, puis de travailler possiblement de la maison. Ce principe de télétravail, il me semble que ça fait des années qu'on parle de ça. Ça serait bien plus efficace, tu sais, quand tu n'as pas besoin d'être au bureau, pas besoin d'avoir de rencontres, puis même avec des rencontres, c'est possible maintenant par la technologie. Ça serait souvent bien plus efficace, au lieu de perdre des heures dans le trafic, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, les troubles de garderie, etc., etc. C'est pas juste en matière d'efficacité au travail non plus, ce principe de télétravail, mais il y a un impact environnemental également. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour en parler, je vais aller rejoindre, vous la connaissez maintenant, elle est directrice chez Enviro Éducation. Geneviève Carrier, notre chroniqueuse environnement, est avec moi. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Fait que dans le fond, là, c'est une bonne affaire, cette tempête de neige-là, pour l'environnement.
Ça a permis de pratiquer notre capacité à faire du télétravail en gang la même journée.
C'est ça? Ben oui.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous disiez, il y a un impact environnemental. Bon, juste une journée comme ça, là, ça fait peut-être pas une grosse différence, mais si ça devenait un mode plus étendu au Canada, au Québec, on pourrait voir un impact notamment sur la consommation d'essence et donc sur les GES. Puis, il y a quelques études qui ont été faites là-dessus.
Donc, télétravail va aider à l'environnement en plus d'avoir une certaine efficacité au bureau.
Exactement, parce que dans le fond, il y a une recherche qui a été faite par un groupe, le groupe de développement économique de Calgary, qui a créé un groupe appelé le Telework Research Network, et eux se sont penchés sur la question suivante. Si tous les Canadiens qui avaient une job permettant le télétravail, on s'entend, si tout ce monde-là faisait 2 jours de télétravail par semaine au Canada,
Oui.
qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait une réduction de 390 millions de litres d'essence utilisés, ce qui équivaut à peu près à un 286 000 voitures de moins sur la route dans une année, et ce qui équivaut à peu près, je dirais, un 2 millions de tonnes de GES évitées par cet acte-là d'être un 2 jours semaine à la maison lorsque possible, bien sûr.
Est-ce que c'est beaucoup, ça, 2 millions de GES?
C'est beaucoup, ça aiderait notamment notre bilan carbone au Canada et au Québec. C'est vraiment une solution qui est considérée, je dirais.
OK. Puis dans le fond, l'économie que l'on a vient non seulement du fait qu'on n'utilise pas la voiture, mais aussi vient du fait qu'il y a moins de congestion. Alors, il y a aussi un effet positif là-dessus parce que même pour les gens qui vont aller au travail ces jours-là, qui vont consommer de l'essence, ils vont, eux, en consommer moins à cause du moins grand nombre de voitures sur la route, donc moins de congestion.
Exactement. Puis on revient aussi aux arguments économiques d'un gain en productivité parce que l'employé a passé moins de temps stressé dans le trafic, il arrive au bureau un petit peu plus frais et dispos, etc. Donc tout ça amène des aspects assez positifs. Puis même côté santé, cet organisme-là s'est permis de calculer la réduction en accidents liés à la route, liés à la congestion. Alors on peut aller loin dans l'analyse des bénéfices d'un télétravail qui serait instauré d'une façon un petit peu plus structurée, là.
Ouais. Mais inversement, Geneviève, je peux pas te laisser aller facile de même, là. In inversement, quelqu'un qui fait du télétravail, on s'entend qu'il n'a pas perdu de temps dans la voiture le matin, puis etc. Et il a aussi été très efficace parce qu'il a moins dérangé, puis ça prend pas 15 minutes de descendre pour aller prendre un café, puis etc., etc. Il se fait pas déranger par des collègues. Donc, il travaille plus, il travaille plus vite, il travaille mieux. Fait que là, il commence à 7h30 le matin à la maison, puis rendu à midi et demi, là, ça fait 5 heures très, très, très productif, là, à la limite même jusqu'à 1h30. Là, il dit, ben là, j'ai fait mon équivalent de journée, je suis au bureau. Puis là, dans l'après-midi, il décide de prendre son auto pour aller chez Canadian Tire, puis aller faire des petites commissions. On n'a rien réglé en environnement, là.
On n'a en effet rien réglé si tout le monde se met à faire des courses l'après-midi.
C'est ça.
Espérons que le Canadian Tire était moins loin que son emploi, puis il n'a pas contribué à la congestion routière du matin.
Ça, c'est vrai. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de voitures qui vont circuler. Ça, il y a un petit peu utopique, je pense.
Exactement. C'est difficile d'avoir un monde idéal, mais écoute, donc ça sera bon pour le Canadian Tire dans ce cas-là.
On peut-tu parler juste techniquement un petit peu, expliquer, parce que même, il y a même Maxime Bernier qui ne croit pas à ça, l'effet des voitures sur, parce que là, il fait le lien avec les vaches, là. Mais c'est quoi la voiture? Bon, elle consomme, on a des dispositifs dans la voiture contre la pollution. En quoi la consommation, l'utilisation d'une voiture, conséquemment l'utilisation, je vais prendre de l'essence, évidemment, en quoi ça contribue au GES, ça? C'est-à-dire que ça envoie une genre de pollution? Explique-nous là concrètement pour du monde qui ne comprenne pas ça, là.
Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Donc, même si les voitures sont de plus en plus éco-énergétiques dans leur façon d'être construites puis dans leur moteur, il reste que quand on consomme de l'essence dans le moteur, dans la voiture, ça crée des échappements de gaz et c'est notamment des échappements de CO2, qui est du gaz carbonique, c'est du carbone en fait. Et puis, cette matière-là, quand elle est relâchée dans l'atmosphère, elle s'accumule dans notre atmosphère et c'est un polluant. C'est un gaz à effet de serre. C'est donc un gaz qui contribue à ce qu'on appelle les changements climatiques ou aussi le réchauffement climatique. C'est sûr que c'est un gaz qui existe déjà à l'état naturel, comme dit le fameux Maxime Bernier. Mais ce qui arrive avec notre société, puis la façon qu'on se déplace avec la façon qu'on produit dans nos usines, c'est qu'on crée automatiquement un surplus de ce CO2-là dans l'atmosphère. Et là, notre planète n'arrive pas à gérer ce surplus-là, si on peut dire. Et c'est ce qui cause, c'est ce qu'on appelle, donc, c'est le surplus qui est la pollution et qui nous cause toutes sortes d'impacts reliés au changement climatique.
Puis est-ce que nos vaches contribuent à ça aussi?
Oui, parce que les vaches, quand elles consomment leur nourriture, elles vont digérer et relâcher un gaz qui est différent. Ça va être plutôt du méthane. Ce qui est intéressant avec le méthane, ben intéressant négativement, je dois dire, c'est que sa capacité d'avoir un effet sur les changements climatiques est encore plus puissante que ce qui s'échappe de nos voitures. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questionnements un petit peu sur la production de viande, les élevages. Ça fait partie des questionnements quand on veut réduire les impacts du changement climatique.
Je comprends. Et pour revenir au télétravail, est-ce qu'il y a des endroits où on a rendu ça comme obligatoire, où on a vraiment serré la vis?
Il y a plusieurs pays qui se sont mis à au moins légiférer pour avoir des règles claires, pour avoir des incitatifs clairs, puis pour qu'il y ait une uniformité dans les façons de faire. Comme par exemple aux États-Unis, ils ont créé une agence fédérale, donc c'est comme un ministère du télétravail pour essayer d'enligner tout le monde vers ça, puis de développer les bonnes façons de faire. En France, dans ce cas-ci, le télétravail est très, très encouragé dans la fonction publique. Puis, ça découle ensuite par les entreprises qui imitent un peu les pratiques innovantes le plus du gouvernement.
Très intéressant. Mais on n'est pas là ici au Canada, bien sûr.
Bien là, on voit que au Québec, depuis la tempête, justement, il y a un groupe, un nouveau lobby qui est un organisme à but non lucratif qui dit que, justement, le Québec devrait se pencher sur les façons de légiférer, pas dans le sens d'obliger, mais dans le sens d'encadrer, d'encourager, puis de permettre qu'on ait une vision claire de comment faire le télétravail au Québec.
Très intéressant. Bon, bien, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Peut-être l'ancien Valentin, là, ça doit pas être bien bon pour l'environnement, cette affaire-là, par exemple.
Il y a certains de nos choix de cadeaux qui sont pas fameux, en effet.
Non. Couper des roses, c'est bon, ça, non?
C'est pas tant de les couper, c'est qu'ils viennent de très, très loin, les roses, avec des conditions de travail, des conditions d'utilisation de pesticides et tout ça. Fait que il y a des belles solutions là, pour une Saint-Valentin un petit peu plus douce pour notre planète.
Bon, ben, on en parle l'année prochaine en prévision de la Saint-Valentin. Merci.
OK, parfait.
Merci, Geneviève. Bye-bye.
Merci.
OK, salut. Geneviève Carrier, elle est la directrice chez Enviro Éduc Action.